Bienvenue sur Ça vient des RH, le premier podcast passion qui parle des RH, parce que nous, on adore les RH, mais c'est tout ce qu'on déteste. On vous laisse découvrir pourquoi, juste après la page de réclame. Quoi ? On dit plus réclame ? Ben on dit quoi alors ?
Ça vient des RH ?
Ça vient des RH ?
Non, ça vient des RH ?
Ça vient des RH !
Quoi ? La réclame ?
Un grand merci à l'agence d'influence B2B Les Années Folles, chez qui nous enregistrons nos podcasts. Bienvenue sur un nouvel épisode de Ça vient des RH, pour parler aujourd'hui d'un sujet, alors pas forcément qui fait l'actualité, mais qui concerne tout le monde, à savoir les contrats de travail et principalement les clauses. Parce que quand on signe un contrat, alors parfois en tant que salarié, on ne sait pas forcément toujours ce que ça recouvre. Et puis souvent en tant que RH, on a des modifications, des ajustements qui viennent de la jurisprudence ou parfois de créativité un peu du législateur. Et donc aujourd'hui, c'est le thème de l'épisode. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on accueille Jean-Sébastien et je vais le laisser se présenter.
Bonjour à tous, ravi de pouvoir partager avec notamment Julien quelques impressions que je peux avoir sur le sujet du jour qui n'est pas sans intérêt. Donc moi je m'appelle Jean-Sébastien, je suis avocat au barreau de Paris depuis maintenant bien longtemps je dirais. Et voilà, je fais exclusivement je dirais du droit social, du droit du travail, du droit de la sécurité sociale et avec une clientèle tant française qu'internationale et pour lesquelles les clauses de contrat sont importantes.
Merci okay. Beaucoup pour ces propos introductifs,
oui, vraiment,
Pierre.
Bon, on va peut-être commencer. On va commencer par finalement peut-être les clauses traditionnelles, celles qu'on rencontre très régulièrement dans un contrat de travail. Et peut-être qu'on va peut-être en énumérer quelques-unes. Et l'idée, c'est de pouvoir en tout cas se dire est-ce que c'est encore utile ou pas, ou est-ce qu'il y a des modifications à faire et, par rapport aussi à ce que toi, tu peux voir aussi
aux actualités
sur est-ce qu'il n'y a pas une tendance à mal rédiger telle ou telle clause, même si c'est traditionnel et même si on n'y touche pas forcément régulièrement, est-ce que ça peut changer ? Et si on commençait par la clause d'identification des parties, finalement, d'ailleurs, moi, je ne savais pas que c'était une clause. Je pensais que c'était quelque chose
évident.
C'est logique, hein, mais on va pas signer un contrat avec X et Z, mais du coup, je ne savais pas que c'était une clause.
Alors, en fait, tu as raison, c'est ce que ça paraît logique, effectivement. Je ne parlerai pas nécessairement de clause, mais ça reste une mention obligatoire dans un contrat. Et ce que tu dis, c'est tout à fait le problème, c'est que, basiquement, ce n'est pas que identifier l'employeur, identifier le salarié, c'est aussi s'assurer que c'est la bonne entité qui emploie. Et ça, dans cette désignation-là, ça passe notamment par un bon numéro de sirette ou de sirène, et que parfois, vu que certaines sociétés ont des noms relativement proches, tu peux te retrouver dans des cas de figure où l'entreprise qui signe, en fait, n'est pas l'entreprise qui emploie. Donc les gens doivent régulariser ça par la suite.
Donc, volontairement ou pas volontairement ?
Pas volontairement, c'est juste que t'as un nom qui se confond, un numéro de sirette, ça peut changer très facilement. Ouais. Pour peu que quelqu'un soit assez peu vigilant,
ouais.
Tu te retrouves en fait à mettre le mauvais numéro et donc t'identifies pas le bon employeur. Donc
t'as
le nom de la boîte, ok, mais c'est pas nécessairement la boîte en fait qui a signé. Parce que tu peux avoir des noms très proches qui vont changer avec, tu vas avoir un France et un France avec un S. Tu peux avoir des noms qui sont très subtils parfois, et il faut toujours regarder le numéro de sirette, et donc on vérifie toujours que le numéro de sirette, en tout cas de sirène, au registre du commerce et des sociétés, en fait, c'est ce qui permet d'identifier l'entreprise en fait, qui emploie. Tu t'assures que le nom correspond exactement au numéro et que tu mets le bon numéro de sirène sur ton contrat.
Et justement, pour enrichir ce point, est-ce que tu as vu, toi, au fil des années, avoir, notamment, tu disais le sirène, des mentions qui avant étaient un peu facultatives, qui devenues, du coup, dans les parties plus précises, par exemple, pour un salarié, il faut mettre un nom, un prénom, numéro de sécurité sociale. Est-ce que tu as vu la nationalité ? Est-ce que tu as vu des choses s'enrichir ou des précisions qu'avant, tu ne voyais pas et que maintenant...
Alors, moi, je pourrais te faire part de ce que j'ai pu voir un peu comment ça a évolué, aussi quand même mes pratiques ont évolué au fil de ma construction professionnelle, en fait.
Oui.
Basiquement, tu as un truc qui s'appelle le RGPD.
On en
parlera plus tard. Mais dans le RGPD, tu as un principe qui est la minimisation des données. Tu vois, je donne des cours en université un peu sur ce sujet avec les RH. Et minimisation des données, c'est juste les données qui sont nécessaires que tu mets dans le contrat. Et en fait, pour signer un contrat de travail, tu n'as pas besoin d'avoir le numéro de sécu dedans, en fait. Tout ce que doit savoir l'employeur.
Je pensais que c'était la date de naissance, la nationalité, parce que ça peut
être
avoir une importance.
Date de naissance, oui, pour le côté majeur.
Et le numéro de sécu, parce que finalement, c'est là où on identifie assez rapidement, je sais pas, alors on va pas rentrer dans la technicité, mais technicité paye, généralement, on a toujours tendance à prendre le numéro de sécu pour la DSN.
Ouais, mais il faut distinguer deux choses, c'est que tu as effectivement les applications paye. Pour des besoins de paye, tu as tout à fait en droit de collecter cette donnée-là, numéro de sécu,
mais
dans un contrat. Tu n'as pas besoin parce que le contrat, ce dont tu as besoin,
c'est
que la personne soit. Savoir si elle est majeure ou mineure.
Oui.
D'accord.
Oui, bien sûr.
Savoir si elle est une société française ou pas, parce que si elle n'est pas une société française, tu dois avoir des autorisations de travail, des titres de séjour divers, hein, que je fais pas mal d'ailleurs de plus en plus maintenant, notamment avec le Brexit. Hein. Parenthèse.
D'accord.
Et tu as juste besoin de ça et d'une adresse, fait, ou joindre la personne. Ça, ça te suffit pour contracter. Okay. Tu n'as pas besoin de plus d'informations.
Le reste est superflu.
Le reste n'est pas nécessaire dans le contrat. Après, je ne dis pas que c'est pour autant illégal de mettre le numéro de sécu. Je considère juste que ce n'est, en application du principe de minimisation des données, cette information n'est pas nécessaire.
Oui, voilà.
Dans le contrat de travail.
Le crochet de l'avoir mis, par contre, si on ne le met pas, ce n'est pas non plus un reproche de ne pas... Ouais. Okay.
Ok, bon, bah, déjà on commence déjà par quelque chose qui n'était pas toujours d'une clarté limpide pour moi, donc ça commence fort. Une clause aussi évidemment qui est importante, c'est le détail des mentions et des fonctions. Est-ce que tu as vu au fur et à mesure du temps la nécessité d'être plus précis ? Souvent il y a un intitulé de poste, ça c'est ok avec un coefficient. Et est-ce que tu vois s'enrichir ces sujets-là en disant maintenant on rentre presque dans des tâches qui sont devenues des annexes et, ou au contraire les choses se minimisent en gardant un flou ? Et quelle est ta recommandation sur ce sujet ?
Alors en fait, tu as un truc qui s'appelle la directive sur la transparence des conditions de travail qui a été transposée en droit français, je crois, à la fin de l'année dernière, assez rapidement, ou va être transposée, je ne sais plus exactement, je n'ai pas fait comme certains avant moi, ont fait leur devoir, moi je n'ai pas fait les miens. Mais en fait... dans ce texte, c'est tel qu'il était transposé en droit français. Donc on a des décrets de septembre ou octobre 2023.
D'accord.
Qui exigent un certain nombre d'informations dans un contrat. Donc effectivement, l'identification des parties, c'est la partie des mentions obligatoires. Tu as toute une liste d'informations qui doit figurer. Et notamment, on doit pouvoir décrire les fonctions du salarié.
Ok.
Donc là, maintenant, en fait, je dirais que là où avant, beaucoup d'entreprises étaient assez évanescentes, on va dire, parfois, sur les postes de travail... Certaines le sont encore, il y a un poste, quelques fonctions. Là, effectivement, la tendance maintenant, et surtout la professionnalisation et la meilleure compréhension de la technicité du droit du travail font que maintenant, on fait des job descriptions, des descriptifs de poste, où tu énumères les tâches qui ne peuvent être limitatives par définition, mais qui ont vocation quand même à figurer de manière assez détaillée pour que le salarié sache ce qu'il va être amené à faire. Donc là, typiquement, tu as deux écoles. Soit tu mets dans le contrat de travail, soit tu le mets en annexe.
En annexe.
Moi, j'ai plutôt une tendance à avoir une préférence pour l'annexe parce que ça reste un descriptif de poste. Et si le poste peut être amené à évoluer sans pour autant que ça modifie substantiellement les fonctions, tu vois, qu'on puisse actualiser l'annexe parce qu'on va dans un monde qui va vite.
Oui, bien sûr.
Donc c'est bien de pouvoir être un peu souple pour tout le monde.
Bien sûr.
Donc j'ai plutôt une tendance à privilégier l'annexe au contrat de travail.
De mettre l'intitulé, mais la description plus précise dans l'annexe.
De toute façon, dans le contrat, tu vas être obligé de mettre l'intitulé de poste, le niveau, la catégorie professionnelle, etc. Tout ce qui fait que tu identifies en fait quel sera ton régime, te sera appliqué dans cette entreprise. Et en annexe, les descriptifs de poste, où tu rappelles l'intitulé de poste, mais surtout en quoi consistent les tâches.
Okay.
Et ça pour un peu plus de souplesse.
Et
maintenant, là, de plus en plus, enfin. Il n'y a pas une seule fois, je dirais, je rentre constamment des job descriptions. Voilà, pardon, des descriptifs de poste.
Oui, oui, oui.
Après, ils les ont, ils ne les ont pas, ou ils les font. L'important, c'est qu'on en ait un, parce que, encore une fois, du fait de cette directive qui a été transposée, ça fait partie des informations dont les salariés doivent avoir connaissance. Parmi toute une liste d'autres qui sont énumérées, que je n'ai plus en tête, mais le droit à la formation, le droit au CPF, par exemple, le droit à l'entretien. Professionnel.
Professionnel.
Voilà, merci.
C'est tous les deux ans. Oui, c'est
Donc voilà. Donc voilà.
Ok, d'accord. Effectivement.
Je commence moi à mettre plutôt 2-3 lignes en me disant que la liste n'est pas exhaustive.
Moi j'avais des annexes. Et c'est vrai que c'était à chaque fois. Parce que parfois tu as un poste qui n'existe pas vraiment, qui est un peu work in progress. Donc tu dis je vais mettre 2-3 missions pour donner et tu ne le mets pas forcément dans l'annexe parce que c'est quand même vu comme contractuel malgré tout, c'est perçu comme tel. Mais où tu renvoies. Tu renvoies à la convention collective, parce que parfois tu as des conventions collectives qui donnent quand même des tâches, mais souvent les CCN, elles sont vieilles quand même. Dans tous les nouveaux métiers, tu oublies en fait.
Oui, c'est
ça. Ça manque d'actualisation, donc tu ne peux plus vraiment faire ça à 40 ans.
Peut-être dans la métallurgie où ils ont actualisé récemment, depuis le 1er janvier, mais sinon, parfois c'est plus trop en phase avec ce qu'on fait. Mais 2-3 points, ça fait ta job description. C'est juste que, encore une fois,
oui,
t'es pas le contrat ou à l'extérieur du contrat.
Oui, t'es pas obligé d'avoir non plus une liste à la Prévert de 40 pages.
Non, pas de problème. Pour les startups, pour des entreprises peut-être moins structurées que certaines avec lesquelles je peux travailler, ou plus d'ailleurs, ça dépend, ça peut être un peu compliqué. Mais les startups ont une vocation à se professionnaliser sur ça.
Se structurer, ouais, je comprends.
Oui, ça, je pense que oui. Ok. Bah, finalement, on parle de poste. Finalement, on va parler aussi de rémunération. Alors, on reviendra peut-être après sur le temps de travail, parce que je trouve que pour moi, la description de poste a plus pour moi, permet de justifier un peu plus le temps de travail avec le forfait jour, ce côté autonomie. Oui. Mais du coup, on va quand même passer entre sur la partie rémunération. Qu'est-ce qu'on peut y mettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas y, mettre.
En tout cas, le sujet sensible.
Pas, ce qui n'est pas recommandé de pas mettre, en fait, parce que c'est clair que dès qu'on voit un chiffre, forcément, on peut se dire bah, on doit le payer. Comment on peut articuler, je parle peut-être plus des bonus, des variables, ouais. Où on a tendance à dire bon bah c'est la base, mais finalement est-ce que tu sors de l'avoir, je suis pas sûr.
Je renvoie souvent vers un truc qui viendra plus tard.
C'est ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire.
Qu'est-ce qui a pu peut-être évoluer aussi en termes d'exigences.
Ouais, alors là, pour le coup, c'est le sujet sensible.
Il y en a un, il arrive de bonne heure.
Sans surprise, je dirais. Bon après sur la clause de REM, globalement c'est assez, t'as une rémunération de base, hein. Ça, c'est assez simple, il y a pas de problème. Tu vérifies qu'elle est conforme au minima, soit que tu appliques en interne. Soit que la convention collective t'impose, soit s'il n'y a pas de convention collective, tu es sûr que c'est au-dessus du SMIC. Après, quand tu es payé plus. Il n'y a pas trop de choses, je dirais, sur la rémunération de base. Après, selon le statut, que tu es cadre, pas cadre, employé, agent maîtrise, cadre dirigeant, le montant de la rémunération évoluera, mais tu pourras parler d'une rémunération annuelle ou d'une rémunération mensuelle. Tout dépendra, en fait, après, comment tu articuleras cette REM avec. La clause temps de travail que tu utiliseras.
Oui,
tu vois, c'est ça, les deux qui vont s'appliquer. Basiquement, sur un forfait jour, c'est une rémunération forfaitaire. Tu parles d'une rémunération annuelle payée en 12 mensualités, assez basiquement. Ça, il n'y a pas vraiment de sujet, je dirais, sur le variable. Voilà, il faut juste bien penser après, c'est que c'est en brut et que les gens sachent qu'ils vont payer des cotisations dessus.
Oui, c'est ça, c'est surtout ça.
Ah oui,
c'est...
bien sûr. Je pense que personne n'est... Enfin, ça peut-être un certain écrivain en net ou en mensuel ou en annuel.
Ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en 10 ans.
Oui, non, c'est vrai. ça peut être
dans
un peu.
Dans les recrutements, tu as encore. Quelques personnes qui raisonnent hein, quand on leur demande leur prétention salariale, je veux 2500 euros net. Donc forcément, quand on va leur annoncer sur le contrat, c'est drôle, c'est pas le même montant qu'on a dealé. Alors si, mais c'est juste que...
T'as contribué à la solidarité nationale.
Donc il y a un travail de rebrutalisation effectué pour avoir le bon montant, donc tu mets le montant brut.
Oui,
contrat.
Oui, c'est clair.
Point
barre. Généralement, oui.
Peut-être après, dans certaines spécificités, je dirais, je sais pas, de type particulier employeur, tu peux parler en net. Mais de conseiller, c'est mieux de parler en brut, comme ça tu vis toute discussion.
Oui, avec c'est plus soir. Facile.
C'est peut-être le seul sujet. Et pensez, alors, moi ce que je fais, mais ça n'engage que moi, mais c'est mon côté peut-être un peu tatillon. Moi j'aime bien mettre les chiffres, j'aime bien mettre les lettres aussi.
Oui, ça c'est.
Parce que basiquement, sur des montants, et j'ai un lointain souvenir de droit bancaire, ou je sais plus, que j'avais fait il y a bien longtemps, où le montant en lettres est celui qui prévaut. Donc si tu ne le mets pas, bon, très bien, mais c'est quand même mieux de le mettre en chiffres et en lettres.
Ah ok d'accord. Moi je mets les deux mais ouais, coup, c'est quand même bon de savoir que c'est toutes les lettres qui vont.
Ouais, voilà ça en fait ouais. Mais c'est basique hein, mais c'est pas systématique. Après sur le variable. Alors ça, le problème du variable en fait c'est que t'as pas vraiment de règles légales ni conventionnelles. Oui. C'est vraiment quelque chose qui relève purement du droit. Est-ce que je pourrais dire droit prétorien? On sait que c'est pas trop.
Pour une définition pour les auditeurs.
Oui, là, je pense.
Alors, prétorien, ça veut dire qu'il est issu de la jurisprudence. On n'a pas vraiment un droit prétorien en France. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle la common law. Et donc, les décisions de Cour suprême font droit. On a eu d'ailleurs une actualité récente sur un droit de Cour suprême aux US qui est revenu sur ce droit-là relativement récemment. Je passerai cet autre sujet sensible qui était par rapport à. L'arrêt sur l'IVG, en fait,
oui,
aux US.
L'IVG, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler.
Et nous, en France, en fait, c'est pas vraiment pareil, il n'y a pas de précédent. Les cours de cassation rendent des décisions. Certaines vont dans le bon sens, certaines parfois changent, ça évolue. Mais dans tous les cas, le droit pour le variable, c'est purement jurisprudentiel. Donc, tu n'as rien de légal. Okay. Donc après, les entreprises, elles ont des plans que tu peux faire signer, pas faire signer. Idéalement, tu es quand même censé être en mesure de pouvoir identifier dans le contrat de travail, je dirais... Alors, pas nécessairement le montant maximum que tu percevras. En tout cas, savoir en fait quel type de bonus ça va être, sur quoi il va être calculé.
Sur quelle grille,
sur quoi il va être calculé. Performance individuelle, collective, chiffre d'affaires, tu vois. Donner quelques indications. Mais il est, je dirais, alors après, tout dépend de quel côté on se situe. Disons qu'il est mieux, je pense, d'avoir un document pareil, annexé, qu'on peut actualiser tous les ans en fonction des besoins.
Oui.
Pour pouvoir ajuster, tant que de besoin, les objectifs en fonction des réalités. Si on commence à caler des objectifs dans le contrat, on est lié par ces objectifs-là.
C'est ça, bien sûr.
On ne peut plus les faire évoluer, ou en tout cas difficilement, sans l'accord du salarié. Donc c'est bien d'identifier des typologies d'objectifs dans la clause de rémunération variable et annexer par rapport à ça.
Et des périodicités aussi, parce que parfois, on a la question de se dire, voilà, je pars le 30 septembre,
Mon patron m'annonce qu'en fait, il fallait que je sois présent jusqu'au 31 décembre. Est-ce qu'il a le droit soit de proratiser ou il a le droit de dire, bah non, t'étais pas là le 31, perdu. Pour moi, s'il n'y a pas cette condition limitative, il ne peut pas le faire. Mais néanmoins, la question se pose. J'ai déjà entendu plusieurs amis avoir cette question. Alors, c'est pas dans le contrat, proprement parler, parce que c'est dans le cadre d'un bonus. Mais il me disait, moi, j'estime que j'étais là du 30 septembre, j'atteins les objectifs, je vois pourquoi si j'en pars, surtout que c'est généralement calculé par rapport à l'année précédente, pourquoi je serais privatisé ou pourquoi carrément j'en serais exclu. Donc c'est un oui. paramètre qui est souvent un peu qui est mis de côté, mais qui a quand même un sens aussi.
Oui, on fait plutôt le début, c'est-à-dire qu'on indique clairement quand même quand lorsqu'on arrive dans une entreprise, c'est privatisé. C'est-à-dire que si t'arrives en septembre, mais évidemment, de janvier à septembre, t'as rien, mais facilement, et on va dire, on oublie assez rapidement que quand on sort...
Ouais, mais après sur la sortie, alors la Géos France, je dirais, a évolué récemment, comme vous le savez peut-être, mais elle est un peu, je dirais, assez peu claire pour moi. On va te dire que ce que tu ne peux pas faire, c'est prévoir une date de présence, je dirais la date de paiement.
Ok.
Ça, c'est pas possible. Tu peux pas dire je te paierai ton bonus que si tu es présent dans la boîte, le jour où je te paye. La période d'essai, c'est fondamental. Donc, ça peut être, elle peut être ce que tu veux. Hein. Elle peut être annuelle, elle peut être trimestrielle, oui. mensuelle, comme tu veux. Okay. Le seul truc, c'est que tu peux tout à fait prévoir une condition de présence. Et si ça n'est pas là au 31 décembre et qu'il est parti avant, qu'il n'ait pas son bonus. C'est tout à fait légal, je dirais en tout cas admis par la jurisprudence. Et il faut que ça soit dans le contrat, par contre.
Il faut que ça soit stipulé, mais très clair.
Après, pour nuancer, la jurisprudence est assez peu claire parce qu'elle a l'air de suggérer qu'il faut proratiser. Okay. Même si tu pars en cours d'année, c'est-à-dire que après tout en pratique c'est extrêmement complexe parce que tu vois tu as des objectifs qu'on te fixe,
oui.
tu vas les atteindre, pas les atteindre. Quel niveau d'atteinte des objectifs, est-ce qu'on proratise par rapport à quoi, par rapport à ton état présent ou est-ce qu'on proratise par rapport à ton niveau d'atteinte d'objectif? Et ça, sincèrement, j'ai pas de réponse à vous donner. C'est juste un sujet qui est assez, encore un peu flou.
Ouais.
Touchy, ça c'est sûr, mais surtout flou parce que même la cour d'appel est assez, je dirais, mesurée dans ses positions. Mais la question de présence en soi n'est pas problématique. La proratisation est possible. La question, c'est est-ce que je peux m'affranchir de la proratisation. Voilà. Okay. Et on pourrait considérer que oui, mais on pourrait aussi considérer que non.
D'accord, donc les deux se défendent, quoi.
Les deux se défendent, mais c'est extrêmement embêtant parce que c'est pas clair. Et on n'a pas de. Rien n'est clairement tranché, c'est embêtant parce que ça ne sécurise personne, en fait.
Oui, c'est ça. Bah, c'est toujours
et le contrat a vocation à sécuriser dans un rapport, même si tu as. Un rapport peut-être, effectivement, où tu travailles avec l'employeur, donc un rapport peut-être de force qui est un peu inversé, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand même maintenant, aujourd'hui. C'est pour la sécurité des parties, en fait, qu'on sache ce qu'il en est.
Oui, et puis c'est vrai que la question peut aussi survenir en cas d'arrêt de travail, en cas de suspension de contrat. C'est des questions alors, qui se posent durant le contrat même. Mais est-ce que j'étais pas présent certes pendant 3 mois, mais j'en pars en fin d'année, mais j'étais suspendu. Alors, c'est des conditions qui sont pas forcément prévues, en tout cas dans les contrats, dans les avenants. On l'écrit pas toujours. Dans les grosses boîtes, si, parce que il y a quand même ça, mais néanmoins, dans les plus petites boîtes, on ne va pas forcément le prévoir. Or, si la personne n'est pas là pendant 6 mois, par exemple, on peut lui dire bah, foncièrement, tu n'y as pas forcément droit ou tu n'y as pas contribué. J'entends notamment si c'est divisé en deux, une performance individuelle, une performance collective, où le collectif a été atteint, et finalement, tu n'y as pas vraiment contribué, et l'individu, tu ne l'as pas atteint, mais finalement, tu as quand même le collectif. Bon, c'est des choses aussi qui sont parfois peuvent de bon sens,
mais c'est
finalement dans l'exercice pas si simple.
C'est effectivement pas si simple, donc c'est vrai que c'est bien de rédiger des clauses correctement. Pas besoin de faire trop de détails, le contrat c'est pas nécessaire, je pense. Il faut juste que que les règles soient bien connues de tous et qu'elles puissent évoluer en fait.
Oui.
Et donc trouver des solutions, je dirais
pas malines,
ingénieuses, pas malines, mais quelque chose qui fait qu'on sait d'où il en retourne sans plus de discussion en fait. Et après, tu avais dit un truc intéressant, je viens de tout à l'heure, sur les arrêts maladie, etc. Oui, non, c'est sûr, mais les arrêts maladie, ça c'est variable. Mais effectivement, genre, quand tu es malade, bon, bah, ça porte atteinte à tes objectifs. Tu vois. Ton contrat est suspendu. Si les objectifs ne sont pas atteints, la maladie n'est pas censée faire déroger à ça. Tu vois. C'est-à-dire que tu es malade 3 mois.
Oui.
Si tu as atteint tes objectifs malgré tout, tu auras ton bonus. Si tu n'as pas d'objectif, tu l'auras pas.
La question peut être, si tu es, par exemple, tu as 50% collectif, 50% individuel. Tu n'as pas ton individuel parce que tu n'étais pas là. Mais ton collectif, parce que tu es dans une équipe qui a performé, qui elle l'atteint. Là, la question peut se poser de se dire, alors j'en sais rien, juridiquement, il y a peut-être le principe de discrimination qui va jouer sur l'état de santé, mais ça, il peut sembler évident pour l'employeur ou le manager ou le RH de dire, bah, tu ne vas pas bénéficier de l'ensemble du prime collectif, tu n'étais pas là pendant 9 points sur 12. A contrario, peut-être vont dire, bah oui, mais c'est discriminatoire parce que j'étais pas là, mais c'est à cause de mon état de santé.
Je sais pas, mais non, parce que c'est pas à cause de l'état de santé, ça fonctionne d'objectif, atteint ou pas atteint.
Donc si le collectif est là, finalement t'en bénéficies, même si toi t'étais pas là. C'est...
Ouais, parce que le collectif finalement n'est pas à fonction de tes performances individuelles.
Bah, il y contribue quand même indirectement. C'est pas que toi, c'est la somme finalement de tous les individus qui atteignent l'objectif.
Ouais, voilà,
toi t'étais
ça,
pas là,
exactement.
Donc il n'a pas contribué, ouais. Mais c'est le reste qui a. Qui a
bah contribué. Tu as contribué quand t'étais pas malade.
Ou pas, si t'étais vraiment pas du tout présent. Mais
bah ça après, ça c'est effectivement. Ça...
Mais bon, après ouais. C'est des causes un peu spécifiques.
Et t'as des conventions collectives aussi qui indiquent parfois aussi, notamment la Syntec sur le congé ouais. Maternité où le bonus est clairement indiqué que ça fait partie du temps de travail. Donc du coup.
Oui, je comprends.
Il y a quand même certaines conventions qui sont un peu plus.
Parce que la situation de la maternité, c'est une situation qui est un
après,
peu différente.
Après, oui, qui est un peu différente ouais, aussi. Ouais. Il y a le temps de travail effectif qui, est quand
qui
même
fait un peu sens.
C'est quand même un peu. Mais on a quand même notre histoire. Alors rien à voir avec notre sujet, mais il y a quand même cette histoire sur les arrêts de cours de cassation, sur les congés payés pendant les arrêts maladie.
Qui récemment, là. Ouais.
Qui vont être réglés peut-être là, qui sont un sujet depuis longtemps. Mais enfin, là, tu vois, on va voir peut-être que les choses vont évoluer, pas que sur ce sujet à cause de ça. Tu vois, je sais pas trop.
Pousser un peu les choses. Dans les éléments qui sont, on a évidemment le salaire, on a les variables qui sont pas uniquement des primes de résultats ou des variables commerciaux, on a aussi d'autres éléments périphériques, par exemple, qui sont de taille un peu plus mineure, mais enfin, les titres restaurants, les remboursements frais de transport, la participation, l'intéressement. Est-ce que c'est malin, c'est intelligent de dire, bah, par transparence, j'indique tout dans le contrat, comme ça la personne sait en toute connaissance de cause, je dis, bah non, vaut mieux un kit d'intégration dans lequel vos trucs, si vous voulez bouger, au moins vous l'indiquez pas. Du coup, est-ce que ça reviendra à dire que bah, dans les éléments de rémunération, je fais salaire variable, point. Le reste, ma préconisation, moi, d'avocat, c'est de ne pas en parler. Et est-ce que c'est quoi ta préconisation ?
Alors, moi, j'ai envie de te dire, le contrat serait un accord convenu, en fait, entre des personnes. La participation, l'intéressement, si c'est en place, c'est en place. Tu peux dire... Tu peux mettre dans le contrat, mais ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de le mettre dans le contrat parce que si jamais les objectifs d'intéressement sont atteints, si les résultats de la participation sont là, tu le percevras en fait. Ça dépend de ton accord de participation d'intéressement, de l'ancienneté qui est prévue, 3 mois maximum, pas plus. Mais après, ça n'a pas besoin d'être dans le contrat. Les tickets restaurant, non plus, ça n'a pas besoin tu vois, d'être dans le contrat. Mais tu peux l'y mettre. C'est juste que tu mets dans le contrat le ticket restaurant, bah. Tu es lié en fait par ça.
Oui.
Et c'est pas nécessaire de convenir de ça.
Oui, c'est pas utile quoi. Au mieux, c'est dans un document annexe, dans un kit de bienvenue, un truc du genre.
Ouais, où tu sais que tu auras
été actualisé.
C'est plus
c'est
la
pas
contrainte
utile.
Finalement. Où on a voulu jouer la transparence, mais finalement, ça va contraindre plus.
Mais quand on parle de transparence des salaires, tu vois, moi, oui. Une directive, on a vu un épisode sur ça qu'on avait dit. Ah, c'est pas
mais c'est pas du
chose,
salaire, ouais, tu vois, c'est pas de la rémunération.
Chose, c'est la transparence sur la communication des salaires.
T'es censé communiquer sur les avantages auxquels t'as droit, tu vois. Tu peux communiquer et dire, voilà, dans un livret d'accueil ou autre.
Un livret d'accueil, c'est ça que je cherchais.
Ça, tout à fait. Et après, sur le volet papapin, le volet. Avantage nature, ça en général, ouais, tu prévois le contrat pour le coup.
Ouais, s'il y a un véhicule, s'il y a des choses.
Ouais, moi je pense à celui-là, véhicule de fonction, oui, tu le prévois le contrat.
Logement de
fonction,
mais c'est plus rare.
Ouais, j'ai jamais vu.
C'est vrai, ouais. On a dû faire deux fois, c'est des trucs complètement improbables, mais c'est rare quand même. C'est quand même très rare.
Tout véhicule de fonction.
C'est une niche, quoi, c'est une micro-niche.
C'est vrai.
Ok, bon, bah, ça valait le coup quand même de parler de cette clause de rémunération, peut-être qu'on y viendra plus tard avec un autre aspect.
Finalement, ce qui va rémunération, temps de travail, ça paraît un peu logique, mais. Essentiel d'en parler. On a commencé un peu à évoquer forfait jour, 35 heures, 39 heures, et puis finalement, quand on dit 50 000 bruts à 39 heures, comment on met ce genre de petite clause ? Est-ce qu'on dit que c'est 50 000 base 35, mais du coup, il faut rajouter ? Donc, du coup, voilà, la clause de temps de travail est assez. Finalement, paraît simple, mais finalement assez. Alors, pas complexe.
Alors, moi, j'aime bien. Moi, personnellement, j'aime bien les 39 heures. Ça dépend de ta convention collective et du nombre d'heures supplémentaires que tu peux faire dans le contingent qui est prévu. Contingent, c'est en fait, vous avez des conventions collectives qui prévoient un nombre d'heures supplémentaires maximum qu'on peut faire par an. Par rapport à ça, si on dépasse ce montant, on va se retrouver à avoir donner des repos en plus. Donc, mais les 39 heures, c'est quand même pas mal quand tu peux le faire avec ta convention collective. Ouais. Mais tes 50 000 euros brut, ça inclut cette rémunération. C'est juste qu'il faut juste caler sur les minima conventionnels, voir un peu quelle est la rémunération sur les minima conventionnels. Et s'il y a des heures supplémentaires, donc c'est 35 plus 4, tu vois, 39 sur cet exemple-là, bah tu as 35 heures rémunérées au taux de base, tu auras 4 rémunérées en heures sup. Il faut juste que le taux horaire majoré soit supérieur au minimum conventionnel et que ta rémunération globale, tout ça pris en compte, soit supérieure. Mais c'est une clause assez, je dirais, simple. Pour le forfait jour, tu as les conventions collectives qui te disent quelles sont les rémunérations certaines, ça dépend, évidemment. Mais certaines, tu parlais de Syntec tout à l'heure, Syntec est très clair sur les rémunérations minimales.
Oui, c'est vrai.
Quand tu es en forfait jour. Tu vois. Après, tu as peut-être des évolutions à venir sur des arrêts, sur des avenants non étendus, mais bon, ça c'est plus technique. Mais oui, l'axe central est important d'être bien rédigé, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est pas que c'est le nerf de la guerre, mais c'est quand même sensible. Tu vois, faut savoir quand je vais travailler, quand je vais y passer, rémunérer ce qu'on doit rémunérer. Et vu que le temps de travail est un sujet, je dirais, complexe, il faut être clair dès le départ sur comment ça s'organise chez nous.
C'est
vrai que
moi, j'arrête. Enfin, quand j'ai des. Alors, moi, c'est Syntec modalité 2, donc c'est 38h50. Mais. Moi, j'ai toujours quand même tendance à me dire, je peux pas mettre, par exemple, l'article de rémunération, mettre 50 000 et mettre juste, vous êtes en modalité 2, sans devoir. Enfin, je m'oblige finalement à me préciser en disant que la rémunération des 50 000 intègre bien évidemment le 35 plus.
Ouais, mais ta modalité 2, en fait, c'est encore différent. C'est encore autre chose, c'est pas tes 39 heures. Ta modalité 2, c'est max 38,5, enfin 35 plus 3,5.
Mais du coup, t'es pas vraiment obligé de mettre que les 50 000, ça fait vraiment.
T'es censé payer un pass minimum, en fait. C'est-à-dire, tu mets quelqu'un en modalité 2, il faut que ce soit payé un pass. Donc, un pass, ça veut dire quoi? C'est à peu près, je crois, 46 000 euros.
C'est un truc comme ça.
Donc, 50 000 euros, tu mets en modalité 2 si ton.
Oui, mais cadre, du coup, tu n'es pas obligé de préciser que, par exemple, la rémunération inclut les heures sup. C'est plutôt cette notion, moi, de...
qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est exclu.
Qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est... Est-ce que, par exemple, un salarié qui vient me voir, qui me dit, bah, écoute, je ne comprends pas, est-ce que moi, mes 50 000, c'est base 35 heures ou base 38, alors que c'est bien marqué, je suis en base... Ou 39,
bah,
en
50 base 000 modalité 2.
Mais est-ce que, par exemple, si on dit base 39 heures, est-ce que je dois quand même indiquer... Je dois quand même bien préciser que mes 50 000 euros intègrent les heures supplémentaires ou est-ce que...
À 39 heures, oui. Vaut mieux le préciser.
Okay, voilà.
Vaut mieux le préciser. Je ne dirais pas que c'est obligatoire, mais quand on est un peu rigoureux, c'est bien d'être clair. T'as 35 heures qui sont rémunérées. T'as ta rémunération qui inclut 4 heures supplémentaires par mois, incluant ta rémunération.
Okay.
Voilà. Et après, tu peux rémunérer en argent, tu peux rémunérer en repos, tu peux t'arranger
comme
tu veux. Mais moi, je suis plutôt favorable... je suis plutôt assez favorable à la transparence sur ce genre de sujet. Voilà. Parce que en n'étant pas transparent, c'est là en fait où l'employeur comme le salarié auront des surprises l'un comme l'autre. Donc autant être transparent dès le départ et que tout le monde sache vers quoi il s'engage.
Oui.
Ça évite tout sujet.
Tout écueil, oui.
C'est clair.
Et on sait qu'aussi il y a eu par moment des contentieux, notamment sur le forfait jour, alors qu'ils sont un peu régularisés. Et l'une des tendances... c'était aussi de passer notamment une partie des cadres dirigeants pour essayer de sortir un peu de ce dispositif. Je ne sais pas si tu as vu, peut-être pas une recrudescence, mais enfin davantage de demandes de passage en cadre dirigeant pour sortir complètement du dispositif du forfait jour et les préconisations dans les clauses qui sont quand même considérablement enrichies, notamment en termes de suivi. Ça sera ma première question. Et deuxième question, avec le télétravail, est-ce que tu as des préconisations particulières à inscrire dans le contrat de travail, même si ça peut renvoyer un accord, mais est-ce que tu as des précos à écrire tout de suite dans le contrat? Deux questions.
Ouais, alors sur la première, je ne suis pas sûr d'en avoir perçu la substantifique moelle, mais peut-être par distraction. Mais quand tu es en forfait jour, tu as une recrudescence, tu as des contentieux temps de travail. Oui, il y en a, pas toujours. Cadre dirigeant, c'est pas à la carte, tu vois. Cadre dirigeant, c'est vraiment si tu as quelqu'un qui est à un niveau de rémunération, au plus haut niveau de la convention collective.
Théoriquement, c'est ça.
En fait, la réalité, c'est ça, en fait, à cadre dirigeant. Un cadre dirigeant, c'est pas autre chose.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu la tendance pendant un moment de passer des gens cadre dirigeant qui, dans les faits, en fait, ne l'étaient pas.
Alors moi, j'ai pas vu cette tendance parce que dans les faits, on peut toujours discuter des faits, en fait. Tu vois, on peut discuter des faits qui va se passer. Quelqu'un va te dire, bah non, j'étais pas un vrai cadre dirigeant. D'autres va dire, oui, je suis un vrai cadre dirigeant. Les faits, franchement, c'est extrêmement subjectif. Tu es au plus haut niveau de la convention collective, tu as la rémunération la plus élevée de la boîte, l'une des plus rémunérations les plus élevées. Il y a assez peu de sujets. Effectivement, que tu participes, tu es très autonome dans ton travail aussi. Hein.
Oui, c'est bien sûr. Il
faut que ça soit rempli. Après, si dans les faits, ce n'est pas le cas, bah, c'est que, on n'a pas choisi. C'est qu'on a été mal conscient en amont, en fait.
Oui, c'était mal conseillé au démarrage.
C'est ça.
Donc, non. Après, là, j'ai peut-être pu voir. Je dirais que peut-être que cadre dirigeant, ça fait moins rêver aujourd'hui qu'avant.
D'accord,
donc les gens ont préféré avoir un bon forfait jour avec des jours de repos en plus, plutôt qu'un statut cadre dirigeant.
D'accord.
Okay.
Malgré une rémunération qui théoriquement est supérieure, théoriquement en tout cas, c'est toujours le cas, mais enfin théoriquement c'était un peu la contrepartie, l'autonomie.
Ouais.
Finalement à l'exercice des faits, c'est pas tout à fait le cas, ou en tout cas
pas un point tel que les gens ne privilégient pas des jours de congé de repos. Quoi.
Ouais, il y a une vraie tendance à retourner à cet équilibre-là qu'on avait peut-être perdu ou qu'on n'a pas, que nos parents ou autres n'ont pas connu. Un équilibre un peu sur ta vie pro-vie perso. Donc ouais, certains préfèrent des congés à trop d'argent.
Oui, d'accord.
Après, okay. Tu vois.
Et sur le télétravail, du coup, ouais. Est-ce que tu as vu ou tu préconises sur le contrat de travail, quand il y a du télétravail, de donner le contexte, les jours, j'en sais rien. Moi, je me suis dit, non, si vous avez un accord, franchement, envoyez l'accord, envoyez la charte, envoyez quelque chose, mais soyez pas trop contraignant sur votre contrat de travail.
Quand tu as une charte, tu as une charte. Tu vois, et tu...
Ah oui, ça j'imagine bien, quand tu as une charte, tu as une charte.
Donc tu n'as pas besoin de mettre dans le contrat de travail.
D'accord.
Si tu as des situations où tu n'as pas de locaux et que tu n'as pas d'autre solution que de mettre tes salariés en télétravail, tu les mets en télétravail. De toute façon, tu es obligé de mettre, dans une charte. Hein. Encore une fois, ça avait été très bien expliqué dans un des précédents podcasts. Hein. Tu as une charte, si tu n'as pas de charte, tu as un accord collectif, si tu n'as pas d'accord collectif, tu as une charte. Si tu n'as pas de charte, tu as l'accord individuel. Mais l'accord individuel, ça peut être pas nécessairement dans le contrat de travail. Okay. Ça peut être un avenant, une annexe convenue sur comment on s'organise dans le télétravail. Okay. Après, ce qui est important, c'est de faire état des plages de disponibilité. Après, pour que les gens sachent en fait, quand ils doivent être disponibles. Mais en dehors de ce cas de figure, ça dépendra vraiment des situations selon les sociétés. Mmh. Si tu es déjà outillé avec une charte et autres, tu peux faire simple sur le contrat de travail. Si t'es pas assez outillé parce que tu es une petite boîte ou que tu n'es pas encore structuré, bah, peut-être que tu mettras en contrat de travail. Mais c'est-à-dire qu'après, c'est toujours plus contraignant parce que si tu as envie que faire moins de télétravail... C'est compliqué. Donc
ouais, une fois que c'est contractualisé, c'est plus
là où il n'y a pas de débat, c'est quand tu sais que tu n'as pas de locaux et que tes gens vont être en full télétravail. Ça n'y a pas de sujet. Quand tu fais, comme on l'a vu maintenant avec le Covid, télétravail 2-3 jours par semaine, la charte est très claire sur ça, sur comment tu renseignes, tout ça. Tu dois requérir l'accord individuel du salarié selon ce que prévoit ta charte. Et donc avenant ou pas, ou lettre, ou email, ou whatever.
Donc limite, soit tu n'en parles pas du tout et tu dis que ça renverra à une charte ou un document annexe, ou tu écris par une ligne pour dire les conditions et les modalités du télétravail.
Alors on voit l'accord. Et quitte à l'accord. Que tu dois de façon avoir l'accord individuel du salarié. Tu dois, ça c'est par accord, tu dois avoir son accord parce que c'est la base du volontariat. Donc, mais cet accord peut se matérialiser de multiples manières selon ce que disent les chartes ou les accords collectifs.
Bien sûr, ok.
Et ça y aura pas de règles. Les seules exigences légales qu'on a, c'est un article. Hein. On a quand même pas grand-chose.
Oui, non, c'est pas. Mais ça aurait pu, soit ça aurait pu être enrichi, ou il y aurait pu avoir des préconisations, des retours d'arrêt qui où il y a des dos et des dons, des trucs qu'on se dit ben non, ça le mettez pas parce que c'est trop astreignant, trop complexe ou trop ambigu, et à contrario privilégiez ce wording ou en la matière. Mais je sais que la législation en la matière est assez récente encore, donc on n'a pas beaucoup de recul sur ce dispositif.
Alors elle n'est pas si récente que ça, législation, hein, parce que si tu reprends bien, alors de lointains souvenirs que j'ai, pour moi le télétravail ça existe depuis 2005. Tu avais un accord à l'époque de 2005 quand même. Bon, déjà.
Pour moi, c'est récent.
Ah oui, ouais,
pour moi,
ouais.
2005, c'est récent. D'accord, okay. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas quelque chose qui a 50 ou 100 ans. Non, c'est un truc qui date.
Ah oui, non, c'est sûr. Parce qu'avant, il n'y a pas de moyens. Ouais,
donc, ok. Peut-être du coup, dans la
suite. La dernière clause un peu traditionnelle, on parle peut-être de confidentialité. On a tendance à avoir des clauses qui font 3 lignes comme 40 pages. Enfin, en tout cas, pour ça, c'est du vécu. Du coup, qu'est-ce qu'on y met vraiment dedans? Est-ce qu'on met tout? Est-ce qu'on met une annexe aussi? Ou est-ce que déjà ça se fait une annexe?
Il y a plein de choses qui se font. Enfin, tu mets dans le contrat, tu auras d'autres boîtes qui te feront une annexe très longue qui pourra inclure ou pas inclure des sujets clauses de propriété intellectuelle. Mm-hmm. Dans le contrat, c'est bien. Être détaillé, après ça dépend en fait des sociétés en fait. Là c'est vraiment quelque chose qui dépend, je suis pas sûr qu'on ait une valeur ajoutée sur ça nous en tant qu'avocat, je veux dire, parce que en fait moi je sais pas nécessairement quels sont les enjeux de confidentialité du client. Le client sait, tu vois, donc le client met sa clause confidentialité. J'ai pas à ma connaissance de limite particulière, quelle qu'elle soit, légale ou jurisprudentielle, parce que t'as rien.
Ouais.
Donc chacun l'a fait un peu ce qui paraît important pour préserver ses données en fait.
D'accord, ok. Okay. C'est finalement la plus légère, en tout cas, de plus clause tradie, plus souple. Ouais. Okay.
Autre clause, d'ailleurs, on m'a posé une question cette semaine, donc j'en profitais pour la poser aussi. Est-ce que tu peux nous dire la clause de non-concurrent, la différence que tu as entre clause de non-concurrence et exclusivité ou loyauté? Et en fait, la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que quelqu'un peut être freelance, c'est-à-dire il a un contrat de travail avec un patron, voilà, classique, et est-ce qu'il peut avoir une activité en parallèle de freelance? Et sur le coup, ça m'a paru une question complètement débile,
Et en fait, je me dis, bah, du coup, franchement, je pense que la réponse a été hyper simple. Elle m'est passée complètement à côté. Et je me suis dit, bah, est-ce que c'est lié à la clause d'exclusivité ? On me dit, mais ça n'a rien à voir. Il fait du, je ne sais pas moi, e-commerce, il fait du Vinted ou des trucs, mais une activité quand même qui lui prend 10, 20 ou 30 heures. Moi, j'ai eu le réflexe de dire s'il a un accident de travail, et finalement, est-ce qu'il va
la faire plutôt à jouer.
Mais néanmoins, la question, je me suis dit, est-ce qu'on le met sur l'impôt de loyauté ? Est-ce que c'est une exclusivité que, bah non, t'es là la semaine ? C'est quoi, toi, ces clauses-là ? Alors, non, concurrence, c'est un peu différent, mais
voilà,
exclusivité, loyauté, et sur le freelancing qui se développe quand même en parallèle, surtout chez la nouvelle génération, qui va faire plein de trucs en même
temps.
Je
ne sais pas ce qu'est le freelance, car je trouve ça, je ne connais pas le freelance, je ne sais pas ce qu'est le freelance.
L'indépendance
implique d'avoir des clients multiples et non un seul. Donc on ne peut pas travailler, être salarié.
Non, c'est pas ça que je dis. Non, t'es salarié, tu fais tes 35 ou 40 heures, mais en parallèle, tu as une activité complémentaire. Tu fais un truc qui n'a rien à voir.
Ça existe, ça ?
Pour le coup. Bah, la question, mais notamment parce que tu as des créateurs de contenu qui peuvent faire, tu vois, qui peuvent être de leur côté, ou tu décides d'avoir un commerce, je sais pas, le 18h à 21h, tu donnes un coup de main à Pierre-Paul Jacques le soir. C'est ça la question. Tu ne fais pas concurrence à ton patron et tu ne fais pas les deux. C'est deux choses qui sont vraiment distinctes. Je me suis dit, bah ouais, effectivement, j'ai raisonné en disant, mais il y aura peut-être des heures supplémentaires, est-ce que les deux vont s'additionner ou pas ? Franchement, je ne sais pas trop quoi répondre. J'ai fait une réponse de Normand. Je me suis dit, bah, c'est une très bonne question que j'ai posée.
L'obligation employeur, donc bon, on va parler plus par rapport à un temps partiel, parce qu'un temps plein est à temps plein, donc il peut normalement pas faire autre chose à côté. Sur du temps partiel, tu es censé pouvoir travailler à côté en tant que salarié.
Mais uniquement temps partiel.
Alors oui, là, il n'y a pas de difficulté et l'employeur ne peut pas t'empêcher en fait, de le faire. Ça, c'est okay. Pour le temps partiel. Pour le temps plein, tu as temps plein salarié d'une société, donc tu ne peux pas être salarié d'une autre société.
Mais et freelance, et du coup, indépendant.
Et si tu es salarié d'une autre société...
Pas salarié, en fait, vraiment freelance.
Mais si tu es salarié d'une autre société, tu as vocation à, en tant qu'employeur, t'assurer que les heures de travail maximales sont respectées. C'est-à-dire 48 heures par semaine maximum, 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
D'accord, ok.
Et sur le freelance... Très bien, ça reste une activité indépendante. Tu as un principe qui est la liberté d'installation, liberté d'entreprendre en fait.
Oui, c'est pour ça que c'est en confiant. Ça semble bête comme question, mais finalement, l'exercice des faits, moi, je n'ai pas cherché plus que ça, mais je me suis dit, ça va se développer dans le contexte actuel, j'entends.
Il ne faut pas que ça ait d'impact sur le travail en fait. Mais ça aura nécessairement un impact sur le travail.
Après, je me suis dit, est-ce que du coup, ça se heurte, on peut se dire, à l'exclusivité, en disant, bah, quelque part, tu travailles pour moi, donc tu n'as pas travaillé pour autrui, même si tu ne fais pas concurrence, ça n'a même rien à voir ce que tu fais. Mais je considère que ce n'est pas OK. Ou est-ce que l'exclusivité, on va me dire, non, désolé, ta clause d'exclusivité, ça n'a rien à voir. Je vends des pizzas à l'extérieur, je fais du graphisme, désolé. Tu vois, je ne sais pas si vraiment la clause d'exclusivité, on pourrait brandir et pour dire, tu ne peux pas. Tu vois,
elle existe, elle est convenue, tout dépend de ce qu'elle précise.
Donc il faut qu'elle soit quand même plutôt...
Qu'elle soit rédigée, tout dépend de ce qu'on veut faire.
Non mais ok, mais je comprends que c'est pas...
C'est un sujet très compliqué parce que t'es pas censé avoir une activité indépendante alors que tu bosses à côté, que t'as 39 ou 40 ou je sais pas combien d'heures, quoi, tu vois.
T'es pas censé
en avoir une. L'employeur, je suis pas certain que l'employeur ait vocation à t'en empêcher, avec ou sans clause d'exclusivité, parce que ça c'est une activité indépendante, mais dès lors que ça vient impacter l'exercice du travail, là ça devient un sujet.
Oui, je comprends.
Et je ne mettrais pas ça dans la... la loyauté, c'est encore autre chose, c'est dans le lien salarié, mais si tu fais du freelance pour un concurrent... Bon.
Ah, encore concurrence, c'est encore, évidemment. Et clause de non-concurrence, est-ce que... Donc ça, c'est aussi dans le contrat de travail. Est-ce que tu as vu une législation être plus rigide, au contraire plus souple, sur des contreparties où tu dis non, globalement, ça fait 15 ans, la législation bouge peu, ou la jurisprudence bouge peu en la matière. En gros, les 2-3 critères qui sont toujours un peu les mêmes, ça doit préserver les intérêts de l'entreprise. Voilà. Et quelle est ta clé de lecture sur ça ?
Ouais, j'ai pas vu trop évoluer la jurisprudence, je dirais. Je suis pas sûr, moi, de voir vraiment, ça c'est très personnel, l'interne clause de concurrence. Ça peut en avoir parfois, mais l'agence est extrêmement, sévère. Et puis il faut distinguer juste, parce que la clause de concurrence, elle s'active après la fin du contrat de travail. L'exclusivité, c'est pendant le contrat de travail. Donc c'est deux sujets, deux moments, deux temporalités différentes pour savoir de laquelle tu vas te prévaloir si tu as quelqu'un qui va travailler avec un concurrent ou des clients ou autre. Mais la jurisprudence n'a pas trop évolué, les critères restent relativement les mêmes. Il faut la prévoir la levée.
Pourquoi tu dis, toi, qu'elle n'est pas forcément, tu ne la trouves pas plus nécessaire que ça? C'est parce que tu dis, de toute façon, l'appliquer, elle est compliquée, parce que finalement, en réalité, c'est beaucoup, il faut prouver, c'est lourd, c'est long. Quelle est ta vision des choses sur cette clause que tu trouves finalement pas si utile?
Elle est, on l'a fait jouer, mais elle sera toujours sujette à discussion d'un côté comme de l'autre. Elle peut être claire, délimitée dans le temps, dans l'espace, pour la contrepartie financière, ça, pas de problème. Je pense que les arrêts tenteront toujours de dire qu'elles ne s'appliquent pas à eux. Tu vois.
Oui, d'accord, c'est une bonne idée. Okay.
Et t'as beau l'avoir activé, tu beau payer et respecter tes obligations.
Ouais, je comprends.
Ça devient toujours très vite contentieux. Après, d'un point de vue stratégie, je sais pas, d'un point de vue business, c'est peut-être pertinent.
Ça je dis pas. Ça peut dissuader ou ça peut, en tout cas, c'est plus psychologique, finalement, peut-être.
Oui,
aussi.
Peut-être, oui.
Ouais, je suis même plus sûr, parce que, mais peut-être, ouais.
Ouais, ça peut-être c'est encore cette vertu-là. Ouais. Ok. Ok, on peut. Du coup, encore. On t'abreuve de questions, du coup.
Oui, c'est vrai. Peut-être une petite clause à questionner sur la clause de propriété intellectuelle. Alors, on la voit peut-être parfois dans l'écosystème start-up ou. Peut-être, on la voit peut-être un peu plus souvent dans cet écosystème-là que dans d'autres. Peut-être pas d'ailleurs, dans d'autres secteurs, mais ça c'est sûr. Mais du coup, voilà, comment on peut s'assurer que cette clause, elle peut être équitable aussi pour le salarié qui va signer, et que ce soit, on va dire, qui a montré les deux parties, bien évidemment, mais voilà, qu'on puisse...
En prenant un conseil en propriété intellectuelle, c'est pas mal. Ça permet de savoir si la clause est équitable ou pas équitable. Après, tout dépend d'où elle vient, mais souvent, ces clauses... Alors, encore une fois, c'est... Un autre sujet, moi, c'est vraiment dans le travail dans la sécu, donc je ne suis pas expert en pays, hein, propriété intellectuelle. Mais globalement, c'est beaucoup de règles d'ordre public, en fait, hein, que tu retrouves dans tes clauses. Donc ça s'applique quoi qu'il en soit. Après, tu as des règles sur, je crois, mais je me trompe peut-être, sur les inventions dans Syntec. Tu vois.
Oui.
Après, tu as des conditions particulières.
Oui, c'est clair. Oui.
En fonction pour les inventions, les œuvres ou autres. Mais comment s'assurer qu'elle est équitable, ça, la meilleure façon de faire si on est attaché à sa propriété intellectuelle, parce que la question est, sommes-nous attachés à notre propriété intellectuelle? Ça, je ne sais pas. Mais pour les salariés ou des indépendants ou autres qui seraient attachés à leur propriété intellectuelle, prendre un conseil, c'est la meilleure façon de s'assurer qu'elle sera équilibrée ou pas équilibrée.
Ok, d'accord.
Mais souvent, ce sera quand même des règles d'ordre public qui s'appliquent en tout état de cause.
D'accord, okay.
On va prendre encore une ou deux questions. Avant d'aborder la question, perso, c'est toujours un peu pompeux ce moment. Enfin, les clauses de mobilité géographique. Alors, c'est une clause effectivement qui est prévue, qui a historiquement, elle posait, je trouve, peu de problèmes. Enfin, on l'activait de temps en temps. Il y a toujours la question du bassin d'emploi, pas du bassin d'emploi sur ton île de France, Paris, est-ce que c'est le même? Ben, bref. Donc ça, c'est une clause. Comment elle se rédige et quelles sont les préconisations? Mais surtout désormais, ce qu'on s'en pointe notamment du fait du télétravail, c'est des gens qui s'extirpent un peu finalement de ces enjeux géographiques, qui partent un peu à péta ou schnock. Est-ce que l'employeur peut limiter? Alors, il y a évidemment l'emplacement, on peut habiter un peu où on veut. Et en même temps, est-ce qu'il y a... on ne peut pas empêcher la personne de travailler hors de France, mais en même temps, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des limites dans la rédaction, ou est-ce qu'il faut être un peu plus précis que ça ne peut l'être par le passé, du fait justement c'est la possibilité de travailler un peu partout en France?
C'est bien d'être en général assez précis dans ta clause de mobilité. C'est bien de dire ce que... On va dire... Son champ géographique, tu peux aussi t'en dispenser quand tu sais que tu vas rester dans le même secteur géographique. Tu sais, tu avais une piège de
jurisprudence. Oui, c'est ça, c'est ce que moi j'avais
fait. Tu as un secteur géographique qui s'apprécie avec différents critères. Si on est dedans, on a posé une clause de mobilité. La clause de mobilité, c'est plus vraiment si tu peux être amené à envoyer quelqu'un, je sais pas, dans le sud de la France ou ailleurs. Et donc, c'est bien d'être précis, et c'est bien aussi, quand on la déclenche, d'en faire notification en amont aux personnes qui peuvent être amenées à être mobiles. L'important là encore, c'est la transparence, je dirais, qu'on sache qu'on a ça dans notre contrat et que les conditions dans lesquelles ça peut être mis en œuvre. Mais ça me paraît pas, moi, de mon point de vue, quelque chose de très problématique. Ça, je sais pas, je vois pas le problème. On peut être mobile parce que t'as la mobilité géographique, mais t'as les déplacements, en fait, c'est deux choses différentes. La mobilité géographique, c'est vraiment quand t'as un lieu de travail qui a peut-être changé, tu vois. Déplacement en France à l'étranger, ça c'est basique, enfin, on se déplace tous.
Oui.
Donc ça, c'est élémentaire de prévoir que des déplacements peuvent être possibles.
Mais c'est lieu pour plus de résidence, c'est-à-dire avant, ça avait pas de sujet. Ton lieu de résidence était relativement proche de ton lieu de travail. Désormais, avec le télétravail, tu peux avoir des lieux de résidence qui sont beaucoup plus loin. Et donc, peut avoir notamment le cas du paiement, évidemment, du transport, parce que c'est transport collectif, donc jusqu'où est la limite. Est-ce que finalement... il faut être un peu plus précis, ce que l'employeur peut dire, bah non, ton lieu de domicile n'est quand même pas situé à Pétaouchnok, parce que ça va être un peu difficile dans les réunions. Enfin, est-ce que ça s'inscrit avec la clause de mobilité, ou est-ce que c'était peut-être dans la clause géographique d'installation, j'en sais rien. Mais...
Oh, oui, t'es encore pas dans le télétravail, c'est-à-dire que si t'as le droit d'habiter un Poutieu, en fait. Hein.
Oui, c'est pour ça que je disais.
Mais t'as un arrêt qui te dit que si t'habites très loin, tu travailles de très loin, que t'es censé venir sur le travail, il me semble que t'as un arrêt, je l'ai plus en tête, mais faut pas se mettre en danger, en fait. Donc,
oui, c'est en Normandie, je crois, je me rappelle.
Bon. Mais on va dire que ta résidence est censée être assez libre. Après, je pense qu'en certains secteurs, t'as des, je ne saurais plus te dire lesquels, mais je pense qu'il n'y a pas des secteurs où tu es obligé, tu sais, de résider dans Paris ou autre pour intervenir.
Oui, si c'est une garde ou de permanence.
Peut-être,
ou des choses comme
ça. Après, ça, mais c'est plus en fonction des postes. Ouais. Okay. Mais après, la résidence, je dirais, est assez libre, mais tu es censé bien travailler sur le travail, quoi.
Okay.
T'es travail ou pas,
t'es censé
okay. être... ton, le travail qui est dans ton contrat quand même, on le met, hein. Mais oui, le travail c'est celui-là, il peut être amené à changer, soit ici, là ou là, il faut être assez précis.
Oui, bien sûr.
Clause de mobilité géographique dans ces cas-là, mais on va dire que si on n'est pas censé décider, bah tiens, j'ai télétravaillé de chez moi, j'habite à 4 heures, et je viendrai au bureau quand je voudrais, je me ferai payer les frais par...
par entreprise.
Ouais, c'est pas comme ça que ça...
Ok.
Dernière question.
Une dernière on va peut-être parler de clause RGPD.
Vas-y, je sais qu'elle te tenait.
Je trouve que c'est assez important. On parle beaucoup de RGPD, côté RH aussi, mais du coup, moi personnellement, j'ai fait un placard, mais mis de 2 pages sur mon contrat, où je précise bien qui appartient à quoi et qu'est-ce qu'on peut faire aussi finalement en tant que salarié pour, pas dénoncer, mais se dire vers qui je dois me tourner quand il y a un problème. Mais du coup, voilà, j'aurais pas besoin, mais en tout cas, d'avoir de plus d'informations sur est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un placard entier ou pas. Alors, je viens de refaire mes contrats, donc ça va pas. Comment dire, je vais pas les refaire demain, hein, je dois t'avouer, mais voilà, comment on peut faire correctement, quoi.
Je dirais que tu as 2 écoles. J'aurais pas de parti pris. Certains te diront que c'est pas la peine de la mettre dans le contrat parce que tu as la note d'information. Okay. D'autres te diront, mettons le contrat. Ça paraît pas absolument indispensable. Mais c'est bien, enfin, encore une fois, tu es censé mettre une note d'information sur les données perso. Je crois que c'est article 13, je sais plus, bon bref. Donc si tu as une note qui est faite, tu remets la note en fait à tes effectifs. Si t'as pas de note, il faut qu'il soit informé d'une manière ou d'une autre, mais de là à contractualiser quelque chose qui n'a pas vraiment vocation à l'être, parce que ça reste du traitement de ou c'est informatif en fait. La clause est informative. Pas d'accord contractuel, mais effectivement, faute de note, on met dans le contrat.
Ok, donc plus une note qu'une clause dans un contrat où en effet, c'est pas forcément. Ça va pas être négociable, quoi. Parce qu'on y met à l'intérieur.
Ouais, ça reste informatif, et le problème, c'est qu'après, ça peut se heurter, je pense, à certaines notes si le temps passant, l'activité évolue, que tu as une note qui sort, mais tu as des trucs dans les contrats. Bon. Mais je dirais pas que c'est mal ou bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution.
Oui, non, je pense pas, mais on va dire, évitons de mettre de l'inutile aussi dans un contrat.
Tout dépend, en fait. Encore une fois, c'est une question de ce qu'on met dedans, en fait.
Oui, bien sûr. Okay.
C'est tout ce que tu mets dedans, sur quoi tu informes, comment tu informes. Effectivement, parce qu'il y a peut-être aussi une confusion de ne pas faire, c'est les clauses RGPD et les clauses avec les salles matériel informatique, par exemple.
Oui, non, oui.
Tu vois,
oui.
Ce sont 2 choses différentes. Ou le matériel informatique, pour le coup... c'est bien de mettre dans le contrat ce qu'il en est. Voilà. C'est pareil, c'est bien d'avoir une charte informatique aussi, quand tu peux l'avoir. Mais la note RGPD, l'info RGPD, n'est pas indispensable dans les contrats.
Ok, d'accord.
Ok. Bon. Eh bien,
passons à la dernière partie.
Exactement.
L'obligation, c'est juste que les salariés soient informés, en fait.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est vraiment très important, c'est le côté
formation.
Non, mais informé, je pense que c'est pareil logique, mais c'est bien de le rappeler parfois.
Donc dans les podcasts, on termine toujours par une petite partie assez courte, mais qui permet de connaître un peu mieux l'invité. Alors, est-ce que tu as une actualité, peut-être, à partager pour cette rentrée ou cette année 2024, qui peut être soit un événement auquel tu participes, ou alors, je ne peux pas parler de dossier, évidemment, mais de sujets dont tu souhaiterais parler.
Une actualité particulière, alors j'avais...
Ou un livre que tu es en train de rédiger, ou...
Alors un livre, non, on a un article, qu'il faut d'ailleurs que je rédige, hein, mais... Non, j'ai pas d'actualité particulière hormis peut-être, j'attends impatiemment, les vacances que je n'aurai pas, Mais ah oui. J'ai pas d'actualité particulière, non.
Okay.
J'ai
ça aurait pu.
Hormis beaucoup de travail.
Ou... C'est plutôt ça.
Un événement, oui. Enfin, j'ai un événement que je pourrais me rendre ou pas, d'ailleurs, je sais plus, c'est au mois de février. Mais oui, mais qui reste une actualité. Mais bon.
Ok. Bon, bah écoute, ok.
On attend
l'article. On attend
exactement,
l'article.
Impatiemment.
L'homme ou la femme, ou les deux d'ailleurs, qui t'inspire le plus et pourquoi?
Alors, j'avais pensé à. Alors, c'était une bonne question et j'ai beaucoup parce que tu avais été gentil de me partager au moins celle-là avant.
Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Franchement,
et j'ai beaucoup réfléchi, je ne savais pas quoi te répondre. Jusqu'à hier soir où j'ai eu un déclic.
Oula.
Et alors, c'est pas du tout une personne qui existe. Hein. Mais en fait, l'espace d'un instant, j'ai pensé plus à Merlin.
Tu vois. Okay. On va savoir pourquoi.
Merlin l'Enchanteur. Ouais. Parce que Merlin l'Enchanteur, pour ceux qui savent, était issu de l'union d'un incube. Donc un démon qui a pris le corps d'un homme,
ouais.
Par opposition à la succube, qui est un démon qui a pris l'apparence d'une femme. Et donc l'enfant d'un incube et d'une femme pieuse. D'accord. Et donc, vu qu'il était doté de ses pouvoirs, je dirais, de connaître les erreurs du passé et d'entrevoir l'avenir, bah je me dis que je m'identifie peut-être un peu à lui, parce que j'ai l'impression de plus en plus que dans mon boulot, plus on avance, plus j'ai de recul sur ce qui se passe.
Ah oui.
Et plus j'anticipe ce qui va peut-être arriver ou pas arriver, tu vois. Et donc je me suis dit, en fait, j'irai pas, parce que tu vois Merlin avec il avait senti, tu vois, Guenièvre, il l'avait pas senti. Tu vois,
il a vu un peu,
il avait pas senti, hein. Il savait, il a senti ce qui allait se passer, tu vois.
Ouais.
Il a pas pu empêcher, mais il a senti ce qui allait se passer, pour ne pas dire le savait, et qui a été beaucoup de source de souffrance pour le roi Arthur. Mais donc je dirais Merlin, ouais, c'est pas mal.
Ok, bah c'est vachement bien. En tout cas, la manière dont tu l'expliques me donne envie de relire.
Oui, oui,
franchement.
Alors si tu veux, si je me permettrais, je t'inviterai à relire, alors peut-être que tu es Merlin, je sais pas de qui, mais celui auquel je t'inviterai à relire, ce serait le Merlin de Robert de Boron, en tout cas attribué à Robert de Boron, qui est un ouvrage du XIIIe ou du XIVe siècle, qui est l'un des seuls, je dirais, livres que j'ai pu voir sur la vie de Merlin. En tout cas, de l'époque.
Okay, voilà,
parce que Chrétien de Troyes, qui a beaucoup écrit sur la légende arthurienne,
oui.
Parle pas de Merlin. Enfin, il parle de Merlin, mais sans raconter sa vie.
Oui.
On a Robert de Boron, donc je pourrais te le prêter si tu veux.
Je note. Et dernière question, c'est quoi ton moment préféré de la journée? Est-ce que tu es plus du matin, l'après-midi, du soir, voire nocturne? C'est le moment où tu t'en sens soit le mieux, où tu préfères travailler ou...
Ah, je pense que j'ai fait une réponse hyper convenante. En fait, la vraie vérité, c'est que je m'occupe de mes filles. Hein. J'ai deux filles, avec ma conjointe, hein, on prend les relais pour aller chercher à l'école, les emmener. Et en fait, les soirs, en fait, quand je les récupère à l'école et que je suis avec elles, c'est là où je pense que... Et c'est pas tous les soirs, tu vois, parce que parfois c'est ma conjointe, parfois c'est moi.
Bien sûr.
Mais les soirs où je suis avec elles, c'est toujours un bonheur. Voilà.
Eh ben, écoute, on restera sur le bonheur. Merci beaucoup à Jean-Sébastien d'être prêté au jeu du podcast. Nous, c'était un plaisir encore une fois de l'animer avec Pierre. Évidemment, Claire vous salue très chaleureusement et on vous retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode de Ça vient des RH. Et j'en profite, mais je ne suis pas sûr qu'il sera diffusé suffisamment tôt. On sera au Salon du Management pour notamment parler de ce podcast le 27 février. À très bientôt.
Et merci.